Ben-Hur, chapitre 4, le premier Noël. Les collines qui s'élèvent au-delà de Bethléem abritent contre les vents du nord une plaine plantée de sycomores, de chênes verts et de pins, d'oliviers et de ronces où paissaient alors les troupeaux. À l'extrémité de cette plaine, opposée à la ville, s'élevait une fort ancienne bergerie qui n'était plus guère qu'une ruine sans toit, entouré d'un enclos dans lequel les bergers avaient coutume de rassembler leurs troupeaux vers le soir. Le jour même où Joseph et Marie arrivaient à Bethléem, quelques bergers au coucher du soleil se dirigeaient vers cette bergerie. À la nuit close, ils allumèrent un feu près de la porte, prirent leur repas du soir et s'assirent pour se reposer et causer, tandis que l'un d'entre eux montait la garde. Ils étaient 6, sans compter celui qui veillait. Comme ils ne portaient habituellement pas de coiffure, leurs cheveux se dressaient sur leur tête en touffes épaisses et rudes, leurs barbes incultes descendaient jusque sur leur poitrine, des manteaux faits de peaux de mouton tournaient la toison en dedans, les couvraient des pieds à la tête et ne laissaient de libre que leurs bras. De larges ceintures retenaient ces vêtements grossiers autour de leur taille, leurs sandales étaient sordides. À leur côté pendaient des gibecières contenant du pain et des pierres soigneusement choisies pour les frondes dont ils étaient armés. Tels étaient les bergers de Judée, des hommes en apparence aussi féroces que les chiens couchés avec eux autour du feu, en réalité des êtres simples d'esprit et tendres de cœur, ce qui tenait en partie à la vie primitive qu'ils menaient, mais surtout à ce qu'ils étaient sans cesse occupés à soigner des agneaux doux et faibles. Ils se reposaient et causaient. Ils parlaient de leurs troupeaux, un sujet que d'autres eussent jugé monotone, mais qui pour eux représentait l'univers. Pourtant, ces hommes simples et rudes étaient aussi des croyants et des sages. Les jours de sabbat, ils se purifiaient et se rendaient à la synagogue, où ils s'asseyaient sur les bancs réservés aux pauvres et aux humbles, et nul ne prêtait au service plus d'attention qu'eux, ou n'y songeait davantage durant la semaine. Ils savaient une chose, c'est que l'Éternel était leur Dieu et qu'ils devaient l'aimer de tout leur cœur, et ils l'aimaient, puisant dans cet amour une intelligence des choses spirituelles qui dépassait celle des rois de la terre. Peu à peu, leurs voix se turent, et avant que la première veille fût passée, tous dormaient autour du feu. La nuit, comme la plupart des nuits d'hiver dans la région des collines, était claire et brillamment étoilée. Aucun vent ne soufflait. L'atmosphère était d'une si parfaite limpidité, le silence si profond qu'on eût dit que le ciel se penchait vers la terre pour lui annoncer tout bas de mystérieuses nouvelles. Devant la porte, le garde allait et venait. Il lui semblait que minuit tardait, pourtant il finit par terminer sa veille. Il se dirigeait vers le feu, heureux de pouvoir se reposer à son tour, quand une lumière douce et pâle comme celle de la lune, perça l'obscurité de la nuit. Il s'arrêta, n'osant respirer. La lumière devenait d'instant en instant plus brillante. Elle éclairait les objets cachés jusqu'alors à ses yeux. Un frisson, causé non par la fraîcheur de l'air, mais par la crainte, le secoua. Il leva les yeux et, voilà, les étoiles semblaient s'en être allées et la lumière paraissait descendre une porte ouverte dans la voûte des cieux. Elle prenait un éclat splendide. Saisi de terreur, il s'écria « Éveillez-vous ! Éveillez-vous !» Les chiens s'élancèrent dans la plaine en hurlant. Les brebis épouvantées se serraient les unes contre les autres. Les bergers se levèrent en sursaut et saisirent leurs armes en criant tout à la fois « Qu'y a-t-il ? Regardez, le ciel est en feu !» Soudain, la lumière devint si éblouissante qu'ils tombèrent sur les genoux. Leurs fronts s'inclinèrent jusqu'en terre et ils auraient rendu l'âme de frayeur si une voix ne leur avait dit « N'ayez point de peur, car voici, je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. » La voix, une voix pure et claire, d'une douceur infinie, pénétra jusqu'au plus profond de leur cœur et calma leur frayeur. Ils virent au centre d'une grande gloire un homme vêtu d'une robe éclatante de blancheur. Au-dessus de ses épaules s'élevaient les extrémités de deux grandes ailes ployées et lumineuses. Sur son front brillait une étoile, Ses mains s'étendaient vers eux pour les bénir. Son visage était d'une beauté et d'une sérénité divine. Ils avaient maintes fois entendu parler des anges, et souvent ils en parlaient entre eux. Maintenant ils se disaient « La gloire de Dieu est sur nous, et celui-ci est le même qui est apparu autrefois aux prophètes sur les rives de l'Ulaï. » Et l'ange continua « Car aujourd'hui, en la ville de David, le Sauveur, qui est le Christ, vous est né. » Il y eut encore un silence, durant lequel ces paroles se gravaient dans leur cœur. « Et ceci vous servira de signe, c'est que vous trouverez le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Le héros ne parla plus. Il s'était acquitté de son message, mais il demeurait encore près d'eux. Et tout à coup, la lumière dont il semblait être le centre devint toute rose et se mit à trembler. Alors, aussi loin que la vue des bergers pouvait s'étendre, ils virent aller et venir des ailes blanches et des formes radieuses, et ils entendirent des multitudes de voix qui chantaient à l'unisson. « Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et bonne volonté envers les hommes. » Après cela, le héros leva les yeux comme pour solliciter l'approbation d'un être invisible, puis il déploya ses grandes ailes, toutes blanches dans les bords et risées comme la nacre dans les parties ombrées, s'éleva sans effort et disparut au regard. Tout redevint obscur autour d'eux, mais longtemps encore, ils entendirent descendre du ciel ce refrain, toujours plus atténué par la distance. « Gloire soit à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. » Quand les bergers eurent repris pleine possession de leurs sens, l'un d'eux dit aux autres « C'était Gabriel, le messager de Dieu. N'a-t-il pas dit que Christ le Seigneur est né ? Oui, c'est là ce qu'il a dit. N'a-t-il pas dit aussi que c'est dans la ville de David, dans notre Bethléem, que nous le trouverions, un petit enfant enveloppé dans des langes et couché dans une crèche ?» Celui qui avait parlé le premier réfléchit un moment, puis il s'écria comme s'il venait de prendre une soudaine résolution. « Il n'y a qu'un endroit à Bethléem où se trouvent des crèches, c'est la caverne. Frère, allons voir ce qui s'y est passé. Il y a longtemps que les docteurs et les sacrificateurs attendent le Christ. Maintenant qu'il est ici, allons l'adorer. Mais les troupeaux, le Seigneur en prendra soin. Hâtons-nous de partir. » Alors, s'étant levés tous ensemble, ils quittèrent la bergerie. Ils traversèrent la montagne, puis la ville, et arrivèrent à la porte de l'hôtellerie, où veillait un homme qui leur demanda ce qu'ils cherchaient. « Nous avons vu et entendu de grandes choses cette nuit, » répondirent-ils. « Nous aussi, nous avons vu quelque chose, mais nous n'avons rien entendu. Que savez-vous ? Le Christ est né !» L'homme se mit à rire d'un rire ironique. « Le Christ, vraiment ! Et où se trouve-t-il ? Il est né cette nuit, et il est maintenant couché dans une crèche. Voilà ce qui nous a été annoncé. Or, il n'y a de crèche qu'en un seul endroit à Bethléem. Dans la caverne ? Oui, viens-y avec nous, et nous t'apprendrons en route ce qui nous est arrivé. » Ils traversèrent la cour sans attirer l'attention, bien que quelques personnes fussent encore éveillées, parlant de la lumière miraculeuse. La porte de la caverne était ouverte. Une lanterne en éclairait l'intérieur et ils entrèrent sans cérémonie. « Que la paix soit avec toi, » dit le veilleur à Joseph. « Voici des gens à la recherche d'un enfant qui serait né cette nuit. Ils disent qu'ils le reconnaîtront à ceci, qu'il doit être emmailloté et couché dans une crèche. » Une vive émotion se peignit sur le visage placide de Joseph. « L'enfant est là, » dit-il. Il les conduisit vers l'une des crèches et voilà, l'enfant s'y trouvait. Il approcha la lanterne pour le montrer au berger, qui restait debout sans prononcer une parole. L'enfant dormait. Il ressemblait à tous les autres nouveau-nés. « Où est la mère ?» demanda le veilleur. Une femme qui se trouvait là prit l'enfant et le déposa dans les bras de Marie, autour de laquelle les assistants se groupèrent. « C'est le Christ !» dit enfin un des bergers. « Le Christ !» s'écrièrent-ils tous ensemble, et ils tombèrent à genoux, tandis que l'un d'eux répétait à plusieurs reprises « C'est le Seigneur, et sa gloire dépassera celle du ciel et de la terre !» Sans éprouver un instant de doute, ces hommes simples embrassèrent le bas de la robe de la mère et s'en allèrent, racontant leur histoire à tous les hôtes du caravansérail qui, éveillés maintenant, se pressaient pour les entendre. Puis ils reprirent le chemin de leur bergerie, et tout le long du chemin, ils chantaient le refrain des anges. « Gloire soit à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre et bonne volonté envers les hommes. » Le récit de cet événement se répandit dans la ville, confirmé par tous ceux qui avaient été témoins de l'illumination du ciel, et durant les jours qui suivirent, un grand nombre de personnes visitèrent la caverne. Il s'en trouva parmi elles quelques-unes qui crurent, mais le plus grand nombre riait et se moquait. 11 jours après la naissance de l'enfant, les 3 mages approchaient de Jérusalem par la route de Sichem. La Judée, enserrée entre la mer et le désert, ne pouvait guère prétendre à être autre chose qu'une sorte de carrefour international que devaient forcément traverser les caravanes qui allaient et venaient entre les pays d'Orient et d'Occident. Mais cela constituait pour elle une source de grande prospérité, et les richesses de Jérusalem provenaient des droits prélevés sur les marchandises qui passaient dans ses murs. Nulle part ailleurs, si ce n'est à Rome, on ne rencontrait un aussi constant assemblage de gens venus de toutes les parties du monde, nulle part un étranger n'était chose plus commune et n'attirait moins l'attention. Et cependant, ces 3 hommes excitaient la curiosité de tous ceux qui les rencontraient. « Voyez, voyez quel grand chameau, quelle belle clochette !» criait un enfant à quelques femmes assises au bord du chemin. Mais ce qui les faisait remarquer, ce n'était pas leur chameau, malgré leur surprenante beauté, ni le son clair de leur clochette d'argent, ni la richesse évidente des 3 étrangers. C'était la question que posait à tous ceux qu'ils rencontraient celui qui marchait en premier. « Bonnes gens !» disait-il en caressant sa barbe tressée et en se penchant hors de sa litière. « La ville de Jérusalem n'est-elle pas proche ?»« Oui, répondit une des femmes, si les arbres sur cette colline étaient moins hauts, vous verriez les tours de la place du marché. » Balthazar jeta un regard à ses compagnons et demanda encore « Où est le roi des Juifs qui est né ?» Les femmes se regardèrent sans répondre. « Vous n'avez pas entendu parler de lui ? Non ? Eh bien, dites à chacun que nous avons vu son étoile, un Orion, et que nous sommes venus pour l'adorer. » Ils continuèrent leur chemin, posant à d'autres la même question et recevant la même réponse. Des Juifs qui se rendaient à la caverne de Jérémie furent même si frappés de l'apparence des voyageurs et de leurs demandes qu'ils rebroussèrent chemin et les accompagnèrent jusqu'à la ville. Les mages étaient trop absorbés par la pensée de leur mission pour prêter grande attention à la vue splendide qui se déroulait peu à peu devant eux. Mispa, le mont des Oliviers, les murailles de la ville, le mont de Sion couronné de palais, de marbre, les terrasses étincelantes du temple de Morija étalaient en vain leur splendeur sous leurs yeux. Ils atteignirent enfin une tour très haute qui dominait la porte où se rencontraient les routes de Sichem, de Jéricho et de Gabaon. Une sentinelle romaine la gardait. « Nous venons de fort loin, à la recherche du roi des Juifs qui est né. Peux-tu nous dire où il se trouve ?» lui demanda Balthazar. Le soldat leva la visière de son casque et appela à haute voix. Aussitôt, un officier sortit d'une chambre située à gauche de la porte. « Faites place !» cria-t-il à la foule qui se pressait alentour de lui. Et comme on lui obéissait lentement, il avança faisant le moulinet avec son javelot, ce qui éloigna un peu les curieux. « Que désires-tu » dit-il à Balthazar, dans l'idiome de la ville, et celui-ci répondit en répétant toujours « « Où est le roi des Juifs qui est né ?»«
Hérode, » dit l'officier avec étonnement.
« Hérode tient sa royauté de César. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. »«
Il n'y a pas d'autre roi des Juifs.
Mais nous avons vu son étoile à Orion et nous sommes venus pour l'adorer. »«
Passez, allez plus loin, je ne suis pas juif. Posez votre question au docteur dans le temple, ou à Anne, le souverain sacrificateur, ou mieux encore, à Hérode lui-même. S'il existe un autre roi des Juifs, il saura le découvrir. »
Il fit faire place aux étrangers qui passèrent sous la porte. Mais avant de s'engager dans une rue étroite, Balthazar se retourna pour dire à ses amis « Notre arrivée est suffisamment proclamée maintenant. Avant minuit, toute la ville aura entendu parler de nous et de notre mission. »